おかしいおかしい。
Je vous invite aussi à suivre l'émission Dialogue entre Congolais avec Alain Hirung à la présentation.
Bonsoir, opération Tolérance Zéro. Le ministre de la Justice instruit la justice tant civile que militaire de se saisir de certains dossiers, notamment la gestion des fonds du cinquantenaire de la RDA et de la SOMAS. Comment analyser cette instruction du ministre de la Justice? Trois invités participent à cette émission. Maître Achille Kabongo, coordonnateur adjoint de la cellule technique de lutte contre la corruption du cabinet du ministre de la Justice et conseiller du ministre, Maître Achille Kabongo. Bonsoir.
Bonsoir, merci pour votre invitation.
Professeur Jacques Joly, professeur de droit et sénateur MLC, il est vice-président de la commission défense, sécurité et surveillance des frontières au Sénat. Nous l'aurons dans un tout petit moment. Maître Jean-Paul Lumbulumbu, analyste politique et coordonnateur national du réseau d'action citoyenne pour la démocratie racide. Maître Lumbulumbu, bonsoir.
Bonsoir, Gilles, bonsoir au sénateur et bonsoir aussi à Maître Jean-Paul.
Comme vous le savez, vous pouvez réagir, chers auditeurs. Valérien Matamba de Lumbashi Katanga dit, faut-il vraiment que ce soit le ministre qui instruise les magistrats pour se saisir d'un dossier concernant un Congolais soupçonné de malversations financières, détournement des biens publics, abus des biens sociaux? Et si le ministre de la Justice lui-même est concerné, comment cela va-t-il se passer? Jonas Nyunyu de Bouna en province orientale, nous espérons que cette fois-ci, cette décision du gouvernement va permettre de remplir les prisons qui attendent depuis 2006. Le gouvernement ne devrait pas se limiter à annoncer des mesures qui ne sont pas suivies d'été, où sont passés les rapports Lutundula, Mayobo et tant d'autres. Le ministre devrait commencer par là. Je crains que la décision du ministre de poursuivre en justice les Koulouna en cravate puisse souffrir de la même maladie que les précédentes décisions. Bienvenue à tous dans votre mission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 40 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
À Kinshasa, dans le cadre de l'opération Tolérance Zéro, le ministre de la Justice a instruit récemment la justice tant civile que militaire de se saisir de certains dossiers, notamment la gestion des fonds du cinquantenaire, les contrats d'assainissement de la voirie urbaine de Kinshasa, le trafic sur le code téléphonique 243, la gestion de la régie des voies aériennes RBA et de la Société Nationale d'Assurance SONAS, ainsi que la situation d'enrichissement de certains officiers de l'armée. Dossier apparemment sensible qui font croire à une certaine opinion que la justice aura une tâche difficile vu les interférences des politiques dans les affaires judiciaires, interférences qui affaiblissent les magistrats. Le ministre de la Justice, qui ne partage pas cet avis, place plutôt les magistrats devant leurs responsabilités. On écoute le ministre Luzolo Bambi au micro du Monsant Olinga.
La tolérance zéro se résume en la lutte contre l'impunité et toutes les violences, lutte contre la corruption et le détournement des biens publics. Le chef de l'État, le donneur d'ordre, a bien indiqué que personne n'est au-dessus de la loi. Il a invité les magistrats à obéir à Dieu et à la loi, conformément à mon mandat et à la loi. Le ministère de la Justice, sur base des informations du pays, a transmis par un pouvoir d'injonction, conformément à la loi, au procureur général de la République et à l'auditeur général, pour chacun en ce qui leur concerne, des indications pour ouvrir des enquêtes, tout en respectant le principe de la présomption d'innocence de personnes considérées. À ce stade, que dire de plus? Qui va interférer? Qui est à l'épreuve? Est-ce le politique ou le judiciaire? Ne nous voilons pas la face. Il faut que la justice montre de quoi il est capable, parce que le mot d'ordre du chef de l'État est une réalité. C'est à la justice de prouver au peuple congolais qu'elle est indépendante, parce que le chef de l'État l'a très bien dit, que personne n'est au-dessus de la loi. Il a d'ailleurs toujours rappelé que l'interférence est même une infraction. La panne est du côté des magistrats, en l'occurrence le procureur général de la République et ses magistrats.
Maître Achille Kabongo, je rappelle que vous êtes coordonnateur adjoint de la cellule technique de lutte contre la corruption du cabinet du ministre de la Justice et également conseiller du ministre. Quelles sont les motivations qui poussent aujourd'hui les ministres à passer à la vitesse supérieure?
Nous disons trop, c'est trop. Pour une fois, au cabinet du ministre de la Justice, Solo Bandeleza, il existe un laboratoire qui fonctionne bien, dont je fais partie et qui intègre la cellule technique de lutte contre la corruption. Et je vous assure que ce laboratoire est dirigé de main de fer par le ministre lui-même. Nous avons constaté trop, c'est trop.
Ça n'a pas commencé aujourd'hui, ce
qu'on... Ça n'a pas commencé aujourd'hui, mais ce qui se fait maintenant est différent.
Comment ça?
Nous ne passons pas à la vitesse supérieure, nous concrétisons. Nous concrétisons. Et regardez comment ils concrétisent. L'action du ministre se situe entre trois dates bien précises. Si vous remarquez, ça a commencé à partir du 25 août, et ça s'est multiplié beaucoup plus le 28 août. Et le 25 août, si vous remarquez, il y a eu au moins trois actions, quatre actions menées par le ministre et deux demandes en date du 28 août. Elle commence par ceci. Une demande adressée au gouverneur de la ville-province de Kinshasa de transmettre en urgence de toutes affaires cessant tous les contrats relatifs à l'assainissement et à la réhabilitation de la voirie dans la ville de Kinshasa. C'est depuis le 25 août. Deux, il y a eu une demande adressée à l'administrateur directeur général de l'Office des voiries et drainages de transmettre en urgence et toutes affaires cessant tous les contrats relatifs à l'assainissement et à la réhabilitation de la voirie dans la ville de Kinshasa. La troisième demande est adressée au directeur général de l'Agence nationale des grands travaux de transmettre en urgence et toutes affaires cessantes tous les contrats relatifs à l'assainissement et à la réhabilitation de la voirie dans la ville de Kinshasa. Quatrièmement, il y a injonction donnée au procureur général de la République et au procureur général près de la cour d'appel de Matete de Kinshasa Matete, d'ouvrir des informations judiciaires sur les faits qui ont entaché la gestion des lignes aériennes congolaises. Ça, c'est depuis le 28 août. Cinquièmement, il y a une injonction donnée au procureur général de la République et au parquet général près la cour d'appel de Matete, d'ouvrir des informations judiciaires sur les faits qui ont entaché la gestion de la régie de voies aériennes. Ces faits ont été dénoncés par la délégation syndicale. Et sixièmement, il y a une injonction donnée au procureur général de la République et au procureur général de la cour d'appel de Matete d'ouvrir des informations judiciaires sur le crash de l'agent de la compagnie filaire qui est survenu en date du 25 août 2010. Et là, je vous précise
très rapidement,
très rapidement que les faits qui sont parvenus à la connaissance de son Excellence, Monsieur le Ministre, sur les crashs, sont très graves d'après les informations reçues. L'avion de la compagnie filaire qui s'est écrasé en date du 25 août dans la ville de Wambindi n'était pas assuré au regard de l'ordonnance numéro 66-622 du 23 novembre 1966 portant création d'une assurance obligatoire. Voilà. Alors c'est pour cela que dans cet avion-là, je vous précise, messieurs, qu'il y a 5 agents du ministère de la Santé qui était dans cet avion, qui était parti en campagne de vaccination. Et voilà, qui sont tombés dans ce crash. Il y a un médecin qui travaille à la clinique Bondeko qui a disparu avec toute sa famille et ses enfants.
Trop.
Nous ne passons pas à la vitesse supérieure. Nous concrétisons maintenant. La tolérance zéro doit être une effectivité.
Voilà, vous concrétisez maintenant. Mais on se souvient qu'il y a beaucoup de dossiers, hein, beaucoup de dossiers de corruption qui ont été dénoncés et par des ONG et par plusieurs rapports, les rapports Lutundula, Mayobo et plusieurs rapports. Pourquoi vous n'avez pas commencé par là et pourquoi maintenant?
Je vous réponds en disant, pourquoi avoir toujours cette mentalité du Congo bashing?
C'est-à-dire,
quand quelqu'un pose une action salutaire, pourquoi toujours rappeler toutes les autres actions?
Pourquoi pas?
Je vous dis, aucune œuvre humaine est parfaite. Non parfaite. Mais il faut quand même commencer quelque part.
Mais
je peux vous assurer.
Il y a des dossiers bien ficelés par lesquels vous pouvez bien commencer.
Il y a des dossiers bien ficelés. Mais commençons d'abord par le commencement maintenant. Il y a des agents de la RVA qui ont été à la rue plusieurs jours. C'est des dossiers urgents qu'il fallait traiter. On commence toujours quelque part par les dossiers urgents. Pourquoi quand on pose toujours un acte en République démocratique du Congo, au lieu d'accepter de dire que cette concrétisation, c'est déjà la voie du progrès, cette concrétisation, c'est déjà bien, on vous rappelle toujours ce que vous n'avez pas pu accomplir. Et je vous rappelle une chose. Quand vous parlez de ces dossiers-là, c'était dans le premier gouvernement.
dans le gouvernement, date du gouvernement, du Zenga.
Mais il y a la continuité de l'État.
Il y a la continuité de l'État. Mais en ayant accédé aux fonctions, admettez qu'il commence par quelque part les dossiers urgents. Il y a une différence à faire. Il y a des affaires importantes et il y a des affaires urgentes. Et quand on est au gouvernement, il faut avoir la dextérité de commencer toujours par les affaires urgentes et puis de résoudre les affaires importantes.
Merci, maître. Professeur Jody, bonsoir, vous êtes en ligne.
Oui, je suis en ligne.
Voilà, je vous rappelle que vous êtes professeur de droit, sénateur NLC, vice-président de la Commission Défense et Sécurité et Surveillance des Frontières au Sénat. Professeur, comment vous abordez cette instruction du ministre de la Justice?
Je suis d'abord très admiratif de, je dirais, la nouvelle dynamique que présente maître Achille. Je suis admiratif de toute cette volonté, mais comme vous, je suis très sceptique. Et si ce n'était pas des affaires graves ou des affaires d'hommes, ça allait me faire rire. Mais je ne veux pas rire parce que il s'agit de l'État. Vous savez, depuis 4 ans que ce gouvernement est en place, ce pouvoir est en place. On nous a parlé, n'est-ce pas, des prisons qui seront pleines. Qui sont en prison aujourd'hui? Ben, des pauvres gars, des pauvres citoyens qui n'ont pas de moyens, qui traînent depuis 3 ans, 4 ans sans jugement. Et les prisons sont plutôt pleines de ces citoyens, ou alors des opposants quelques Mokia, quelques Coutineaux. Le fameux clown en cravate dont on nous parle depuis 4 ans, il n'y en a pas, il circule. Et lorsqu'on arrête des gens tels que les Mike Kashinga ou d'autres, ou les Herman Bonnion, ils circulent dans la ville librement. Alors, il faut qu'on cesse, n'est-ce pas, de prendre le Congolais pour vraiment alors, excusez-moi le terme, des imbéciles. Il faut que ça fait 4 ans que nous sommes dans cette affaire, et subitement, c'est le rêve, on dit voilà, on va poursuivre les gens de l'AC. On va poursuivre les gens de la RVA, mais ce sont les mêmes policiers qui arrêtent les syndicalistes de la RVA. Il faut qu'on soit sérieux. Cette agitation électoraliste sur tous les fronts, mais qu'est-ce que nous voulons? Je suis vraiment désolé. Qu'on nous dise qu'il y a une politique de tolérance zéro en termes de discours, c'est vrai, mais en termes de réalité, et vous avez raison d'avoir posé la question, pourquoi cette réveil subite? Non, il faut que nous puissions nous regarder en face. La corruption, l'intérêt de la démarche du ministre, c'est peut-être de reconnaître aujourd'hui, c'est que toute la société civile a toujours dénoncé la corruption, l'opacité. Nous avons refusé de participer au cinquantenaire à cause de cette opacité. On parle, on reconnaît aujourd'hui que le gouverneur de la ville il y a probablement des informations en matière des équipements en matière d'assainissement. On parle de l'OVD, on parle de la SONAS, mais tout ça c'est des notoriétés publiques. Alors, le ministre se réveille pour donner des injonctions au nom d'un code devenu déchué depuis 82, c'est très intéressant, mais qu'est-ce qu'on va faire? Rien. On va retomber dans la même logomachie, sans prise réelle sur la réalité. Donc, je ne vois pas comment, sincèrement, en une année, on va faire ce qu'on n'a pas pu faire en 4 ans, voire en 9 ans ou en 10 ans. Je suis bien sceptique et je ne vois pas comment cette même administration incapable de nous dire qui ont tué CBA pour des affaires qui sont en instance, qui a où se trouve Bazana, le chauffeur de CBA. Et qu'aujourd'hui, on a soulevé les cadavres de l'AC. Oh, mais non, soyons sérieux, s'il vous plaît, revenons aux choses sérieuses, attaquons-nous à ce qu'on peut attaquer, qu'on nous dise qui a tué CDA, l'affaire est devant la justice, on ne sait pas où est-ce qu'on se trouve, on est dans l'opacité,
professeur.
Et qu'on nous cesse, n'est-ce pas? Oui, qu'on cesse de distraire le peuple congolais.
Professeur Jolie, donc si je vous comprends, pour vous, vous n'y voyez que des visées plutôt électoralistes. Brièvement, je vous comprends.
Oui, tout à fait, c'est du discours. Au lieu de nous dire qu'il y a tué CBA, on nous publie un livre blanc pour jeter la fumée noire ou blanche, je ne sais pas. Alors que l'affaire sur la table de l'auditeur, il y a des milliers de Congolais qui pourrissent dans la prison, qui attendent un jugement. on ne s'occupe pas de cela. On semble découvrir l'affaire Sonnage. Mais Herman Boyo est libre. Et ceux qui ont géré avec lui continuent à gérer la Sonnage. On nous parle de la RVA. Mais qui ignore que les syndicalistes sont arrêtés et que M. Assis, n'est-ce pas, est libre de ce mouvement? Comment on peut nous expliquer qu'il y a plus de 26 millions qui ont été déclenchés, voire 35, pour une affaire où on nous a dit qu'on allait construire le plus bel aéroport moderne de l'Afrique? Non! Je me demande une livre écrit pour demander au ministère public. Ce qu'il faut, c'est libérer la justice de cette instrumentalisation. Nous n'avons ni besoin d'une justice, nous avons une gestion d'une justice debout, d'une justice assise, mais pas d'une justice couchée, instrumentalisée à des fins politiques. Et ce qui est en train de se faire aujourd'hui, c'est de la politique politicienne, et ça démontre une fois de plus que la justice est à la merci des politiques et de leurs ambitions, merci, de leurs buts électoraux.
Merci, professeur. Il faut signaler que vous avez cité plusieurs noms, hein, mais tant que l'instruction judiciaire n'est pas encore arrivée à son terme, tous bénéficient de la présomption d'innocence. Maître Jean-Paul Lumbulumbu, vous êtes analyste et coordonnateur national du réseau d'action citoyenne pour la démocratie raciste. Comment vous analysez cette instruction du ministre de la Justice? Maître Lumbulumbu, vous êtes en ligne? Voilà, décidément, on a quelques soucis avec la ligne de Maître Lumbulumbu. Maître Chikabongo, je vous ai vu demander instamment la parole. Vous l'avez.
Alors, j'aimerais dire ceci, je suis déçu, quelque part, par l'argumentation du professeur Jacques Lyoli. Dans cette émission, nous ne sommes pas venus faire des interventions politiques, mais je demanderai au professeur Jacques Lyoli, parce qu'on l'appelle professeur d'université, pédagogue, il enseigne à l'université, il devait être aussi scientifique dans ses déclarations. Il dit libérer la justice qui est instrumentalisée. Il sait bien que ces gens qui ont été en prison, qui sont libres, ce n'est pas le ministre de la Justice qui les a fait libérer, c'est que quelque part, ces gens-là, en prison, ont fait l'objet d'une poursuite par les instances judiciaires compétentes, notamment par le parquet général de la République, soit par le parquet général pour la Cour d'appel. Et que si on les libère, on les libère par la volonté de qui? De ces mêmes autorités juridictionnelles qui, de par la Constitution qui nous dit, aucune autorité gouvernementale ne peut donner injonction à un juge dans l'exercice de ses fonctions, ni entraver le cours de la justice, ni s'opposer contre l'exécution d'une décision de justice. Et quand vous allez vérifier tous ces dossiers-là, vous trouvez parfois qu'il y a des dossiers qui sont classés sans suite. Je reviens à mon mouton. Le professeur Jacques Joly n'ignore pas. Quand il veut s'attaquer au Kuluna en cravate, que nous avons un code de procédure pénale désuet qui a donné des immunités à la plupart des cadres de commandement dans l'administration publique. Je rappelle au professeur Jacques Joly que dans notre administration publique, dans notre fonction publique, quand vous êtes chef de bureau et cadre de commandement, les immunités commencent à partir de là. Il y a des immunités juridictionnelles, des immunités de poursuite, c'est-à-dire des immunités de poursuite au niveau de l'instruction et même au niveau de la détention. Il n'ignore pas. C'est-à-dire, pour que la tolérance zéro réussisse, il faut réformer les lois. J'aimerais inviter le professeur Jacques Joly à ne pas s'attaquer aux hommes. Évitons les arguments ad hominem. Discutons scientifiquement. C'est dans les lois qu'on doit réformer. C'est ce qu'a entrepris actuellement le Zolo Bandeles. Et c'est ce qui explique, moi qui étais dans la société civile et qui a toujours lutté contre la corruption, je dirige aujourd'hui, je suis coordonnateur adjoint de la cellule technique de lutte contre la corruption. C'est pour la réforme. On doit commencer à attaquer la cause et non les faits.
Voilà, maître Assis Kabongo, il y a des auditeurs qui nous écrivent, qui sont très intéressés par le sujet. Christian Soukourou Kanyunyu, il est à Kinshasa. Il dit, la chanson tolérance zéro contre des personnalités politiques en vue et des officiers de l'armée commence même à nous ennuyer. Je pense que lorsqu'on veut bien faire, passer à l'acte est plus préférable que crier. Nous nous rendons compte que ces Kuluna en cravate se servent de vos cris comme bouclier, comme qui dirait, le chien aboie et la caravane passe. Corneille Kalinda, lui, est à Lubumbashi au Katanga. Le ministre Luzolo ne doit pas s'arrêter à l'instrument. Il devrait aller jusqu'au bout de sa logique en instruisant le procureur général d'enquêter aussi sur la gestion de la primature et pourquoi pas celle de la présidence. Brièvement, maître Kabongo.
Alors, je dis ceci, cet auditeur n'a pas raison. Le colonel en cravate ne se servent pas des crises. Ils se servent des immunités. Que le régime Mobutu avait fait intégrer dans les lois de procédure pénale en République démocratique du Congo. Imaginez-vous, pour poursuivre un ministre, il faut une information préalable. Il faut une autorisation du chef de l'État. Et le ministre ne peut pas être poursuivi par n'importe quelle juridiction parce qu'il est justiciable de la Cour suprême. Il faut un officier du ministère public près de la Cour suprême de justice. Et c'est très grave dans l'administration publique. Lorsque même un simple chef de bureau, vous ne pouvez pas l'attirer en justice par citation directe. Vous devez, au préalable, retenir l'autorisation, c'est-à-dire faire une plainte auprès du procureur général près de la Cour d'appel. Ça,
donc,
c'est très grave.
Si ces immunités continuent, donc, votre action également est voilà.
Alors, c'est ce que j'aimerais dire au professeur Jacques Ndjoli. Soyons scientifiques pour monsieur le professeur, mais soyons pas politiques. Commençons par le commencement. Chaque chose a une cause. Nous avons déjà détecté la maladie au laboratoire du ministère de la Justice et nous sommes prêts à éradiquer cette maladie. Alors, je demande de cesser la langue de bois et la mentalité du Congo bashing.
Maître Jean-Paul Lumbulumbu, vous êtes en ligne?
Oui, je suis en ligne déjà.
Voilà. Alors, maître, comment vous analysez cette instruction du ministre de la Justice?
Bah, écoutez, la première chose à dire, c'est que la décision du ministre d'instruire au magistrat de s'abonner à c'est un dossier, est une décision vraiment, vraiment courageuse. Mais il faudrait distinguer la décision du ministre et le champ même de la politique de la tolérance zéro. Vous savez, donc la politique de la tolérance zéro qui se base sur une théorie bien précise est décidée par le gouvernement et qui doit être mise en place. Nous pensons que dès la mise sur pied de cette politique, elle portait déjà les germes de ses cheveux et aujourd'hui les résultats sont là. Vous savez, la politique de la tolérance zéro exige à ce que lorsqu'il y a un délinquant qui est inculpé, qui est soupçonné, qu'il soit immédiatement immédiatement condamné. Et lorsqu'il n'est pas immédiatement condamné, on lui donne la possibilité de récidiver. Et la politique de tolérance zéro ne pouvait pas réussir et elle ne réussira pas dans un contexte de la République démocratique du Congo. Je prends en compte ici d'abord le contexte judiciaire et juridique. Le contexte juridique et judiciaire de notre pays ne permet pas au gouvernement pour le moment de pouvoir appliquer la politique de la tolérance zéro parce que la politique de la tolérance zéro exige aux autorités de pouvoir violer un certain nombre de droits, notamment le principe de la présomption d'innocence. Donc pour le moment, notre droit est encore assez formaliste et exige un certain nombre de droits de personnes qui peuvent être reconnues. Donc le contexte juridique et judiciaire ne permet pas jusque-là la mise en place et l'application de la politique. De la tolérance zéro. Deuxièmement, sur le plan politique, c'est parce que c'est là que se trouve le problème. Lorsque je prends en compte le contexte politique actuel, et je prends en compte également le caractère relatif et alors relatif du principe de la séparation des pouvoirs, je me dis qu'il est difficile aujourd'hui de mettre en application la politique de la tolérance zéro dans notre pays. D'autant plus que, pour le moment, il est difficilement acceptable que les loups de l'ANP puissent se manger entre eux. Je veux bien le ministre de Louvain Obambi qui a lancé et qui est en train de s'occuper de l'application de cette politique, puisse essayer de fournir un certain nombre de points dans ce sens-là, mais lorsque j'examine le contexte politique de notre pays, où l'ANP domine au niveau du gouvernement, au niveau de l'Assemblée nationale, il est vraiment difficile que le coup en cravate qu'il recherche puisse être vraiment rattrapé par cette politique. Ce que nous constatons et que nous regrettons, c'est que ce sont les Kounouna en sanglier, pour ne pas dire les Kounouna en polo, qui sont la première victime de cette politique de la tolérance zéro, alors que nous pensions que le port de la prison est également ouverte pour les grands hommes politiques que nous voyons. J'essaie de me rappeler ici le dossier de 12 députés, on a essayé de crier il n'y a pas longtemps, 12 députés qui ont été impliqués dans la corruption. Le dossier de l'enquête commence toujours, et puis à un certain moment, on étouffe l'affaire, on n'en parle plus. Donc ça, ce sont des éléments qui montrent déjà que, dès sa conception, la politique de la tolérance zéro ne pouvait pas marcher. Donc il y a le contexte juridique et judiciaire, il y a le contexte politique également qui ne permet pas, mais également il y a le contexte social et économique, parce que pour appliquer la politique de la tolérance zéro, il faudrait vous rassurer que
le taux de chômage a été réduit, la croissance économique, et que les citoyens peuvent vivre paisiblement de leur revenu. Donc moi je me dis, en tant qu'analyste, de sa conception, cette politique portait les germes de sa faiblesse, et cela peut être démontré aujourd'hui.
Avant de, donner, de redonner la parole au professeur Jacques Joly, maître Jean-Paul Lumbulumbu, et à cet auditeur ou par Kino David de Bouna en province orientale qui dit « Les instructions du ministre de la Justice paraissent comme une véritable distraction pour faire voir à la population congolaise que les abus commis sont bien suivis, alors qu'en principe c'est le contraire, le seul qui a pu mettre les Koulouna en cravate, c'est-à-dire les ministres, les PDG en prison au cachot, c'est Laurent Désiré Kabila. »
Je pense que c'est une observation tout à fait normale de la part de cet auditeur. Vous savez, l'opinion suit de près les déclarations de nos autorités politiques. On le suit de très près. Par exemple, lorsque le président de la République, dans son discours d'investiture, il dit qu'il va lutter contre la corruption. Écoutez, les citoyens, comme on est en train de suivre, voudraient le voir à l'œuvre. Nous voudrions bien que la politique de la tolérance zéro puisse participer à la réduction sensible de la criminalité et surtout à la lutte contre la corruption. Mais c'est vrai qu'il y a abondance, il y a floraison de discours, mais dans les actes, il n'y a absolument rien qui est en train d'être effectué. Je suis très satisfait d'entendre maître Achille Kabongo de dire que le ministère veut maintenant passer à la justice supérieure. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on essaie d'analyser depuis l'investiture du président de la République, ça fait maintenant, je ne sais pas, autant d'années. Et aujourd'hui, ça fait presque une année depuis que cette politique de la tolérance zéro a été lancée. Mais donc, on essaie de faire le bilan, vous allez remarquer que ce sont les petits bandes. Ce sont des petits garçons qui ont été arrêtés, ce que j'appelle le Koulouna en polo ou en cinglé, alors que les grands Koulouna en cravate restent encore dans leur bureau, ils sont protégés et entretiennent ce que j'appelle ici les jardins de la corruption, aux vues et aux touches des autorités gouvernementales. Donc je pense que ce point de vue est tout à fait normal et je pense que ce serait le point de vue de tous les Congolais qui suivent cette émission en ce moment.
Professeur Jacques Joly, maître Jean-Paul Lumbulumbu, évoque un contexte juridique. Le contexte juridique et judiciaire, politique, ainsi que le caractère relatif de la séparation des pouvoirs qui sont déjà un peu préparés à ce que la tolérance zéro ne puisse pas marcher. Est-ce que vous partagez de ce point de vue?
Oui, je voudrais d'abord dire que j'ai beaucoup de sympathie pour le ministre Mzolo et bien pour son conseiller, mais comme il a lui-même remarqué, qu'ils sont dans une totale impuissance. Pas l'impuissance parce que ceux qui doivent donner l'impulsion. Le problème n'est pas simplement théorique ou scientifique, le problème est d'abord politique. Est-ce qu'il y a une volonté politique d'appliquer la politique de tolérance zéro au-delà des effets cosmétiques qu'on donne au ministre de la Justice et à ses conseillers? C'est au cœur même de l'État que se situe la problématique. Lorsqu'on voit comment les contrats sont conclu dans l'opacité avec des entreprises qui sont basées dans des villes vierges. Comment sont exécutés ces contrats? Par ceux-là même qui sont au pouvoir, comme l'a dit Maître Lumbulumbu. C'est au cœur de l'AMP, et c'est le maître qui l'a dit, que se trouve la contradiction principielle. Et je ne vois pas comment nos amis de la ministère de la Justice, au-delà de la distraction et peut-être de la consolation scientifique, peuvent aller au cœur, n'est-ce pas, de cette contradiction. Alors, comme il a été dit, on parle de contraintes juridiques ou juridictionnelles. C'est vrai, mais qui doit mettre en accusation le ministre? Qui doit mettre en accusation le PDG? Dans le texte de la procédure du code de procédure pénale, il est prévu. C'est le président de la République, ce n'est pas le Parlement. Et lorsque le Parlement évoque les immunités, mais lorsqu'on veut vraiment les arrêter, comme dans le cas de Moukonkole, on jette les immunités dans l'eau. C'est-à-dire, lorsque l'intérêt du pouvoir est tel qu'on veut se saisir ou sanctionner, on s'en fout, n'est-ce pas, des arbitres judiciaires ou juridiques. Mais lorsqu'il faut agir réellement dans les sens que nous attendons, de la lutte contre la corruption, des détournements, de la gabegie, on n'est sans aucune volonté. Au contraire, le pouvoir se nourrit, n'est-ce pas, de cette gabegie, dans cette relation incestueuse entre les mandataires publics et le pouvoir politique, au but au vu aussi de tout le monde pour les intérêts politiques. Dans quel pays du monde on voit des PDG assister à des réunions politiques, à des congrès ou à des réunions? Tout ça c'est parce qu'il y a une relation incestueuse. Et si on n'attaque pas cette relation incestueuse, tout ce qu'on fait c'est de la distraction. Ignore comment la SONAS a été mal gérée, même si on parle de présomption d'innocence. Et je voudrais dire à notre ami l'avocat, lorsque ils ont arrêté les hommes d'affaires qui étaient impliqués déjà dans les majorisations en matière de des travaux d'infrastructure, qui a libéré ces gens-là? C'est la police judiciaire ou c'est le même parquet à qui on donne aujourd'hui des instructions? Donc qu'est-ce qui a changé dans les contextes juridiques et politiques pour nous dire aujourd'hui qu'on va ouvrir une nouvelle action, on va passer à la vitesse supérieure? D'où viendrait cette vitesse supérieure?
Merci professeur. Réagissant à cette instruction du ministre de la Justice, Samba Imutenda Lukusa, président du syndicat autonome des magistrats du Congo, pense que cette décision du ministre de la Justice serait bonne à condition que nous puissions orienter les magistrats dans leur prise de décision judiciaire au regard de la séparation des pouvoirs. On écoute Samba Imutenda Lukusa, président du Sinamag, au téléphone de Samuel Kachak.
Il y a beaucoup plus de théâtralisation que d'effectivité. Je pense que la tolérance zéro doit consister à voir le magistrat s'occuper réellement de sa tâche, le ministre de la Justice également, de manière à voir les choses bien faites, en donnant à chacun les moyens appropriés. On peut bien parler de la tolérance zéro quand on ne donne pas les moyens aux magistrats pour accomplir leur tâche. C'est un vrai mot qu'on aura lancé comme ça à la consommation du grand public. Ce qu'on doit retenir, c'est que si les magistrats ne sont pas informés de quelque chose, et que le ministre informé de cela les informe à leur tour pour qu'ils puissent s'assumer, et il a agi dans le respect strict de la séparation des pouvoirs. Le ministre s'occupe de la politique générale du pays. Une fois que cette politique est arrêtée par le gouvernement, la politique est communiquée aux magistrats qui doivent s'assumer. S'il y a une information que les magistrats n'ont pas, le ministre peut leur communiquer cette information, quitte à eux de s'assumer, mais s'il doit le faire juste pour les orienter, ça ne va pas, il aura violé la séparation des pouvoirs.
Maître Jean-Paul Lumbulumbu, je rappelle que vous êtes analyste et coordonnateur national du réseau d'action citoyenne pour la démocratie RACID. Comment vous réagissez aux propos du magistrat Samba que vous venez de suivre?
Écoutez, les propos du magistrat Samba sont tout à fait justifiés. Vous savez, le principe de la séparation de pouvoir, très souvent, on a l'impression de se voiler la face en disant voilà qu'il y a une séparation entre le judiciaire, le politique et le législatif. Mais écoutez, il y a des preuves, il y a une très grande collaboration entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. Je ne vois pas aujourd'hui le ministère de la Justice, qui est un organe politique, puisse ne pas s'immiscer lorsque, par exemple, il y a un dossier qui touche quelqu'un qui est de la famille politique du ministre, par exemple. Et là, tu as dit, le contexte politique lui-même, il ne permet pas que la politique de la tolérance zéro puisse s'appliquer. Parce que les interférences politiques, il y en a, il y en aura toujours. On ne peut pas se voir la face. Je voudrais répéter ici l'expression de son excellence, monsieur le ministre. On ne peut pas se voir la face des interférences politiques, il y en a toujours dans le dossier de corruption. Il suffit qu'il y ait un ministre, il suffit qu'il y ait un ADG, il suffit qu'il y ait un responsable qui est du même regroupement que celui, par exemple, de la majorité. Il est très difficile qu'on puisse le mettre à la face du monde pour le faire voir à la face du monde que c'est un colon à la cravate et qu'il faut qu'il soit sanctionné, parce que sa crédibilité devra inévitablement toucher la crédibilité de la forme politique à laquelle il appartient. Alors, parce que le loup ne peut pas se manger entre eux, comme je l'ai dit tantôt, et que le contexte politique actuel de notre pays fait que c'est la majorité qui est au pouvoir et qui gère un certain nombre de domaines, donc il est vraiment, vraiment difficile que l'on puisse prétendre que dans le cadre de la séparation du pouvoir, on peut prétendre que les magistrats vont faire leur travail en toute quiétude sans une certaine interférence du pouvoir exécutif. Ça, c'est vraiment c'est de la théorie, on ne peut pas accepter ça.
Maître Silka Bongo, vous êtes coordonnateur adjoint de la cellule technique de lutte contre la corruption du cabinet du ministre de la Justice et conseiller du ministre. Vous allez réagir au propos de Maître Lumbulumbu, mais en plus, il y a l'honorable Odiane Edunepolin, il a été engagé en province orientale qui dit « Je salue chaleureusement les propos du ministre de la Justice, bien que cela ne soit pas la toute première fois, mais nous comprenons qu'il est coincé par d'autres forces politiques pour ne pas concrétiser son programme. J'estime que le ministre Luzolo doit savoir que les couloirs en cravate pullulent aussi en province et dans toutes les structures étatiques. Il est grand temps pour que le gouvernement se ressaisisse afin de sauver ce qui peut l'être encore. »
Je réagis en disant ceci, qu'il a raison, mais je veux vous dire que ceux qui disent que Luzolo passe à la vitesse supérieure se trompent, Luzolo concrétise. Je précise. Il y a longtemps que les gens ont dit nous passons à la vitesse supérieure. Mais cette fois-ci, nous disons, nous concrétisons. Et vous avez vu ici que Le professeur Ngoli a souligné qu'il y a de très mauvaises mœurs politiques et que le monde, l'atmosphère politique a des relations incestueuses. D'où viennent ces relations incestueuses? D'où viennent ces mauvaises mœurs? Elles sont datées du temps de la Deuxième République. Il faudrait prendre du temps pour les corriger. Mais éviter de sonner les glas lorsque quand même dans le bateau de la justice, il y a maintenant un capitaine qui se dit, c'est frappé la patrie, moi je peux faire arriver le navire au bon port. Évitons de sonner le glas. C'est ça le problème, c'est ce que nous disons au professeur Ngoli. Ça prend du temps pour corriger. Et au président du Sénat, Samba, il répond ceci. Il dit, il faut laisser le magistrat s'occuper réellement de sa tâche. Mais très souvent, on laisse le magistrat s'occuper réellement de sa tâche. Mais à l'analyse de la situation telle que nous avons constatée, lorsque le magistrat décide du placement du dossier sans suite, lorsqu'il décide de relaxer un prévenu, et lorsque nous examinons que, par rapport au fait infractionnel qu'avait commis le prévenu, il ne devrait pas être relaxé. Et quand le ministre voudra faire le suivi, ils vont crier « Oh, on est en train de porter atteinte à l'indépendance de la magistrature. » Vous voyez? Alors dans ce cas-là,
les interférences politiques vont en faire quoi?
Le ministre Luzolo l'a dit, cette fois-ci, la balle est dans le camp du pouvoir judiciaire. Il leur a donné une injonction. Et ici, le ministre Luzolo s'est fondé sur l'article 12 du Code d'organisation et de la compétence judiciaire. Il dit, le ministre de la Justice peut donner injonction au procureur général de la République d'initier ou de continuer toute instruction préparatoire portant sur des faits factionnels qui ne ressortent pas de la compétence de la Cour suprême. Et je dis ceci, nous allons concrétiser. C'est pour cela qu'il faut du temps. Il faut donner du temps. Il faut qu'au gouvernement...
Combien de temps encore? On a pris beaucoup de temps.
Il faut donner beaucoup de temps à Luzolo. Je le dis concrètement. Il faut lui permettre d'être à la tête de ce ministère le plus longtemps possible. Et la population peut voir le changement être induit.
Voilà, merci maître. Professeur Jacques Joly, je rappelle que vous êtes professeur de droit et sénateur MLC, vice-président de la commission défense, sécurité et surveillance des frontières au Sénat. Vous allez également réagir au propos de maître Achille Kabongo, mais il y a Peter Chaba qui est à Kalemi, au Katanga, qui dit quelle décision, cette question on l'adressera plutôt à maître Kabongo. Il y a Clovis Bilimbe qui est en Bandaka à l'Équateur qui dit « Je salue avec toute énergie l'idée du ministre Luzolo, mais je demeure pessimiste quant à la réussite de celle-ci. Calé à Marcel, il est à Boutembo, Nord-Kivu. La corruption au sein de la justice et le clientélisme politique bloqueront la décision du ministre Luzolo Bambi. » Professeur Joly.
Oui, voilà. C'est-à-dire que c'est bien d'évoquer la Deuxième République, mais la Deuxième République est morte. Nous sommes dans la Troisième République. Et le mœurs que nous dénonçons aujourd'hui, qui a atteint le point pour lequel nous regrettons tous, c'est la Troisième République il y a 4 ans, et dans lequel le gouvernement actuel est en train de protéger. Alors, nous sommes tout à fait d'accord avec l'idée du ministre de la Justice. Nous sommes, comme nous avons dit, nous avons beaucoup de sympathie. Il dénonce à la place publique un certain nombre de faits qu'on a cru être de fait tout simplement des rumeurs. Elle dénonce la situation à l'RVA, à la CRS. Mais le problème, c'est qu'il faut que le pouvoir judiciaire soit libre d'actionner. Et cette capacité du pouvoir judiciaire doit découler de la volonté politique, de la chancellerie de laisser le pouvoir faire son travail, et aussi du magistrat d'être assumé. Donc, il y a ces deux actions qui doivent être concertées. La volonté politique de ne pas avoir une justice instrumentalisée et couchée au service des intérêts d'un pouvoir, et d'autre part, de la capacité des magistrats de comprendre qu'ils ont un devoir vis-à-vis de la conscience nationale. Mais aujourd'hui, les magistrats disent qu'ils ne sont pas libres, mais qu'ils sont au service, qu'ils sont révoqués, qu'ils sont lutés, non pas par leur instance, mais par le pouvoir politique. Et c'est là où il y a le danger. Lorsque le premier président de la Cour suprême, dans un discours officiel, dit que l'indépendance du pouvoir judiciaire, ça veut dire la loyauté vis-à-vis du président de la République. Alors, de quelle indépendance on parle? De quelle justice nous parlons? C'est ça la problématique. C'est la problématique. Donc, il faut sortir
n'est-ce pas, de cette situation actuelle, et si on reste dans cette situation actuelle, la tolérance zéro restera un slogan, et la preuve, ça fait 4 ans, nous sommes dans les slogans.
Maître Jean-Paul Lumbulumbu, il y a Mandanda Kitandio qui est à Kindo Manyema qui dit « Sans justice, rien ne peut marcher. Je pense que la justice pourrait bien fonctionner dans notre pays si tous les moyens étaient mis à sa disposition. Donc le ministre ne doit pas se limiter à des déclarations et laisser tout aux magistrats, mais il doit les accompagner dans leurs décisions judiciaires. »
Oui, écoutez, cette déclaration judiciaire traduit vraiment la volonté ou l'attente de la population envers le gouvernement. Vous savez, la démocratie ne peut pas marcher sans justice. Et je pense que le gouvernement qui est conduit, le professeur Bandeluzolo, c'est l'un des gouvernements les plus importants pour la promotion de la démocratie dans un pays où la démocratie se recherche encore comme la République démocratique du Congo. Et tout doit passer par la justice parce qu'il faudrait que tout le monde puisse avoir accès à la justice et qu'il y ait une justice équitable pour tous les citoyens. Mais lorsqu'il y a une justice à deux vitesses où il y a des couloirs en cravate et qui sont protégés par un certain nombre de facteurs, et que les communes en polo ou en cinglé constituent la seule foi du gouvernement, écoutez, on ne peut plus parler de la justice. Ce sont des questions pareilles qui créent des conflits et qui amènent la plupart des citoyens à ne pas être obéissants vis-à-vis de certaines règles établies par l'État. Donc la justice, c'est vrai, c'est vraiment le pilier de la démocratie. Et nous pensons que la promotion de la justice à travers un gouvernement comme le nôtre, c'est lui, devrait être l'une des priorités, d'autant plus qu'on ne peut pas envisager mettre sur pied la politique de la tolérance zéro sans pouvoir penser à la justice égale et équitable à tous les citoyens.
Nous attaquons la dernière partie de cette émission. Maître Achille Kabongo et deux auditeurs encore, Maxime de Kinshasa, nous sommes habitués à ce genre de discours, mais en réalité, on verra beaucoup plus de petits poissons arrêtés que les grands qui continueront à courir encore dans les rues du pays. Peter Chaba de Kalemie au Katanga, quelle décision le ministre de, la justice va-t-il prendre dans le cas où il s'observerait une légèreté de traitement de ces dossiers dans le chef des magistrats? C'est aussi votre conclusion.
Oui, je vais répondre à Maxime à Peter tout à l'heure, mais j'aimerais répondre au professeur Ouvrier.
Très rapidement, merci
très
beaucoup.
Rapidement, quand il dit que dans son discours, le procureur général de la République a dit l'indépendance et la loyauté vis-à-vis du chef de l'État. Mais je rappelle au professeur Angelis, ceci, soyons scientifiques, l'article 149 de la Constitution, dans son alinéa 3e, précise que les arrêts et les jugements, ainsi que les ordonnances des cours des tribunaux, sont exécutés au nom du président de la République. C'est-à-dire, chaque fois qu'un magistrat n'exécute pas très bien les arrêts et jugements, il manque de loyauté au chef de l'État, parce que ces jugements sont exécutés au nom du chef de l'État. Et pour Peter, nous disons ceci, les petits poissons seront toujours arrêtés parce qu'ils n'ont pas des immunités. Mais les autres ont des privilèges d'immunité. Et lorsque, si le ministre remarque une certaine légèreté dans le traitement des dossiers, il se limitera à donner des injonctions conformément à l'article 12.
Merci, maître. Professeur Jolie conclut également.
Je voudrais lui dire qu'il puisse lire le même article. La justice est rendue au nom du peuple. Ce sont les jugements qui sont exécutés au nom du président de la République. Ce n'est pas l'injustice du président de la République. Ce n'est pas une justice au même de l'exécutif. Et la Constitution est claire, le pouvoir judiciaire est indépendant. Et c'est là le cœur du système. Il faut créer les conditions de l'indépendance de la justice en donnant le moyen. Une justice avec un budget de 2% qu'on clochardise à destin pour s'attaquer à des forces ou à des contre-pouvoirs. Une justice incapable de nous dire aujourd'hui qui a tué GBA, et cette justice-là n'est pas libre parce qu'elle est aux mains du pouvoir politique.
Merci, professeur. Maître Jean-Paul Lumbulumbu, un mot en guise de conclusion.
Nous saluons cette décision courageuse du gouvernement de la République, mais nous voudrions inviter le gouvernement à mettre en soutien un contexte, un cadre juridique propice à l'application de la formation de la loi zéro, et puis de mettre sur pied un contexte social-économique qui permettrait les citoyens à participer à l'œuvre de la reconstruction, parce que je ne suis pas sûr, selon mes analyses, que seule la politique de la loi zéro puisse réduire la criminalité dans notre pays.
Merci Maître Jean-Paul Lumbulumbu, merci à vous Professeur Joly et merci Maître Achille Kabongo. Cette émission est terminée, merci à vous chers auditeurs de nous avoir suivis. Vous pouvez la retrouver sur www.radiocapi.net. Au revoir. Okapi, okapi.